Et on le retrouve après quelques semaines d'absence. Olivier Beauregard, bonjour.
Salut.
Un bonheur de te retrouver, même si les petits virus ont fait leur chemin et sont pas complètement partis. Bien content de te savoir à l'autre bout du fil.
Bien content d'être là, puis je m'excuse pour les gens qui nous écoutent là avec la voix nasillarde un petit peu, mais c'est ça, c'est les joies d'hiver du Québec.
Voilà. Parlons maintenant, ça c'est moins des joies, là, mais des performances du Canadien puis des Sénateurs. Ça, on pourrait même qualifier ça de décevant. Là.
Ouais, absolument. Je pense que décevant, c'est faible, même comme mot. Là, je pense que c'est une situation qui est vraiment difficile. Tu sais, on parlait beaucoup du Canadien cette année, les attentes qui étaient là. La fameuse phrase qui est revenue le plus depuis le tournoi de golf, c'est être dans le mix. Une phrase qui, selon moi, ne veut pas dire grand-chose, là, parce que être dans le mix, ça peut être dans le mix de plusieurs choses. Dans le mix, est-ce que ça veut dire qu'on va faire les séries? Ben, à Montréal, soit dit en passant, je pense que on peut oublier ça. Et dans le mix, est-ce qu'on va être prêt d'une participation aux séries? Ben, même là, je pense qu'on peut oublier ça du côté du Canadien de Montréal, parce que c'est vraiment décevant comme premier début de saison. Il y a plein de gens qui vont trouver des excuses, c'est correct. Il y en a qui vont dire que l'absence de Patrick Laine, ça a coupé un peu les jambes du Canadien, mais en même temps, Patrick Laine n'avait pas patiné avec le Canadien encore, avait joué un match hors concours. On a su qu'est-ce qui est arrivé, mais dans le sens où le Canadien avait même pas eu l'échantillonnage d'un match de saison régulière puis l'impact que peut avoir Patrick Laine dans un match. Donc, de dire que c'est la faute de Patrick Laine ou que c'est l'absence de Patrick Laine qui peut faire en sorte que bon, on fait le chou blanc à Montréal, ben, c'est un peu, selon moi, c'est un peu une excuse facile parce que le Canadien, là, a pas juste compté sur lui. On espérait retrouver un Kirby Dach en grande forme, lui qui a manqué toute la saison dernière. Mm-hmm. On espérait trouver un Juraj Slafkovský également qui reprend là où il l'a laissé l'an dernier. Puis finalement, ça n'a pas été ça, Sébastien. Ça n'a tellement pas été ça que hier, pour le match contre Columbus, ces deux gars-là s'alignaient sur la quatrième ligne de l'équipe. Évidemment, là, du côté de Slafkovský, il a connu une belle soirée, mais reste que c'est vraiment décevant depuis le début de l'année, ces performances-là de ces deux joueurs-là, dont on avait attribué des trios, pas des trios, mais plutôt des rôles très importants sur des trios importants. Puis malheureusement, depuis le début de l'année, ils ne sont pas capables de répondre aux attentes.
Mais comment ça, ils ne sont pas capables? C'est ça, il y a comme un... Voyons, il me semble que sur papier, ça aurait dû être mieux que ça. On s'en est parlé là, à différents moments dans l'année. Ouais. C'est tu sais, où on disait décevant là, d'entrée de jeu, mais c'est un peu ça, parce qu'il y a de la déception, parce qu'on s'attendait à mieux. Là.
Ben exact. Puis moi, je pense que la réponse est simple. Vraiment des performances au-dessous des attentes. C'est-à-dire qu'il y a des Cole Caulfield qui marquent à un rythme effréné. Il y a Brendan Gallagher, qu'on dirait qu'il y a 20 ans, qui, eux, là, peuvent être dans le côté du bon, du côté du Canadien de Montréal. Mais, tu sais, après ça, là, l'échantillonnage est très basse. Là, du côté de Nick Suzuki, c'est pas l'ombre de lui-même. C'est difficile de récolter des points sur une base quotidienne. Kirby Dach, écoute, il est complètement invisible. On dirait qu'il ne sait plus jouer au hockey. Juraj Slafkovský, ben lui, cherche un peu sa chaise. Puis honnêtement, je pense que ça sonne pas très, très bon pour le Canadien, pour la suite des choses, parce que t'as beau essayer de t'identifier comme une équipe qui est compétitive, si les résultats suivent pas, au final, ça va être un échec pour l'organisation. Je regarde un peu ce que le Canadien va faire d'ici la période des transactions. Pas grand-chose à faire. Là. Tu veux bouger qui? Tu veux échanger qui? C'est plus ça que le Canadien a besoin. Le Canadien a besoin que les jeunes qu'on a repêchés très tôt, soit dit en passant, puis les transactions qu'on a faites à la Kirby Dach, ben, soient payantes éventuellement. Et là, c'est pas le cas présentement. Est-ce que le Canadien est mal entouré? Est-ce que le Canadien est mal coaché? Je sais que c'est tabou de le dire à Montréal, mais Martin Saint-Louis, en ce moment, est-ce que c'est l'homme pour amener cette équipe-là vers une évolution puis les amener en série éliminatoire éventuellement? Ben, on a le droit de se poser la question parce que c'est des sous-performances. On remporte un match, après ça, on s'éteint complètement le match suivant. C'est une question de préparation. Écoute, il y a plusieurs questions, mais il n'y a pas nécessairement de réponse. Et quand je regarde un gars comme Alex Newhook qui est arrivé à Montréal, sur qui on disait, ben, il peut être sur un deuxième trio, mais il peut être très, très bon sur un troisième. La réalité, c'est que lui, là, on sait même pas, justement, dans quelle position on peut le placer dans la formation du Canadien. C'est vraiment, vraiment décevant comme début de saison. La tenue de la brigade défensive, c'est pas mieux. Samuel Montembeau, moi, je pense que c'est un point positif parce qu'il réussit à garder les filets, mais tu sais, t'as un substitut comme Kaden Primeau qui est pas capable d'arrêter un ballon de plage. Donc, ça va être très, très difficile pour le Canadien de se replacer dans une série de victoires. Mais, écoute, Martin Saint-Louis va devoir faire le travail, puis moi j'ai peur que Martin Saint-Louis, son job soit en danger éventuellement, parce que chez l'état-major du Canadien, écoute, pas faire les séries encore une fois cette année, c'est une catastrophe. D'autant plus que, rappelle-toi, là, c'est ce que je disais d'entrée de jeu, au tournoi de golf, tout le monde disait on va être dans le mix, on va être proche des séries ou on va être dans les séries. En ce moment, le Canadien de Montréal est près de la dernière équipe au classement général. Ça, c'est une catastrophe chez le Canadien. Chez les Sénateurs, Sébastien, c'est pas mieux. Là, honnêtement, c'est une équipe qui tarde à éclore, c'est une équipe qui tarde à performer. On est allé chercher du renfort en David Perron, en Jonas Lundmark dans les buts. Puis on s'est dit, ben, c'est probablement le gardien de but qu'il nous fallait à Ottawa pour connaître des bonnes performances. C'est difficile de son côté. C'est encore tout croche chez les Sénateurs. On a l'impression que même l'arrivée de Travis Green, l'entraîneur-chef, n'a pas changé grand-chose. On perd plus souvent qu'autrement. Brady Kachuk joue du jeu frustré. On a vraiment l'impression chez les Sénateurs que encore une fois, ben, c'est comme un peu la roue qui tourne. On vient au même endroit qu'on était l'an passé quand on s'est dit l'an prochain, on va ajouter des pièces, des éléments. Honnêtement, c'est pas très, très jojo à Ottawa non plus. Je sais qu'il y a une situation des blessés là, chez les Sénateurs, c'est pas facile. On a des noyaux fragilisés. T'sais, un gars comme Thomas Chabot qui joue énormément de minutes quand il est en santé, ben lui, malheureusement, il est plus souvent qu'à son tour à l'infirmerie. David Perron a quitté l'équipe pour des raisons personnelles qui est tout à fait comprenable, mais reste que l'équipe cherche encore des solutions. Et chez les Sénateurs, ben je pense que c'est un peu la même chose. Michael Adlauer, quand il s'est amené comme nouveau propriétaire, il a dit je veux revigorer un peu le blason de cette équipe-là. Mais pour le faire, il faut avoir une équipe qui est compétitive, une équipe qui va en série. Et tous les éléments sont là. C'est une équipe qui a sur papier vraiment, vraiment un beau noyau de joueurs. Mais malheureusement, on a comme encore l'impression que la colle attire pas. Alors, ça sera à voir. Est-ce que les Sénateurs vont devoir bouger parce que des gars comme Claude Giroux qui sont arrivés dans cette équipe-là, des gars comme Thomas Chabot même, auront peut-être avantage à être transjugés pour aider les Sénateurs immédiatement puis peut-être essayer de faire un bout de chemin en séries éliminatoires parce que cette équipe-là présentement n'est pas dans le portrait des séries. Mais contrairement aux Canadiens, je pense qu'ils ont encore une chance d'y être. Mais il va falloir vraiment qu'on performe puis qu'on aille chercher plusieurs victoires au courant des prochaines semaines, parce que sinon, les Sénateurs d'ici Noël, on peut déjà les oublier dans le cadre des séries éliminatoires également.
Bon, ben on va leur souhaiter aux deux équipes de meilleurs temps, de meilleures parties, puis un petit coup de pouce, là, un petit miracle de Noël peut-être qui pourrait arriver.
Ben, parce que sinon, le printemps va être long en Outaouais, mon ami, je te le dis tout de suite.
C'est sûr. Parlons football maintenant des Alouettes de Montréal. La situation chez les Alouettes, là, la saison est terminée. Fait que j'imagine que là, on regarde où est-ce qu'on s'en va puis qu'est-ce qu'on fait.
Oui, Danny Mathieu-Thiel, directeur général, n'a pas perdu ça. Là. Déjà, on a annoncé aujourd'hui que David Alexander, le corps arrière, qui agit comme corps arrière substitut à Cody Fajardo cette année, a été signé sur une prolongation de contrat, mais non seulement une prolongation de contrat, mais ça prouve qu'il sera le corps arrière numéro un de l'avenir de cette organisation-là. C'est ce que ça veut dire là, avec le contrat qu'on lui a accordé. Et on le sait, Danny Mathieu-Thiel, à la fin de la saison, a dit « Faut que je regarde vers l'avenir. Est-ce que Cody Fajardo, son meilleur football, est plus derrière lui que devant lui? » Ben, faut constater que l'organisation pense que Cody Fajardo a joué son meilleur football, mais que maintenant, c'est le temps de se tourner vers l'avenir, se tourner vers un gars comme David Alexander. Fajardo a été blessé cette année. Alexander est arrivé dans la mairie puis il a fait un travail extraordinaire. Mais je sais que chez les partisans des Alouettes de Montréal, on se demande encore pourquoi on laisse partir un Cody Fajardo. Parce que dans la situation contractuelle de l'équipe, tu peux pas payer deux corps arrière avec des salaires si élevés parce que la masse salariale est vraiment plus petite dans la Ligue canadienne de football. Mm-hmm. Donc, ça fait en sorte que le contrat qu'on a donné à David Alexander, malheureusement, ça veut dire que Cody Fajardo, ça va être malheureux, mais on va lui montrer la porte. En tout cas, on n'a pas nécessairement annoncé ça, mais dans les propos de Danny Mathieu-Thiel, on comprend que c'est ce qui s'en vient, c'est ce qui va se dessiner. Je pense que c'est lui l'homme d'avenir. On lui a prouvé, on lui a accordé un contrat de cette trempe-là aujourd'hui. Maintenant, c'est de voir est-ce que David Alexander peut faire le travail sur une saison complète. Est-ce qu'il peut ramener les Alouettes où ce qu'ils ont été au courant des deux dernières saisons, c'est-à-dire champion de la Coupe Grey puis en finale de l'Est. C'est pas peu dire. Les Alouettes ont vraiment, vraiment redoré leur blason, comme je disais tout à l'heure pour les Sénateurs. Ben là, du côté des Alouettes, on a réussi à le faire. On est une équipe qui compétitionne, on est une équipe qui a fini au premier rang de l'Association de l'Est cette année. Moi, je pense que les Alouettes de Montréal sont sur une belle lancée, mais maintenant, quand tu changes de corps arrière, un corps arrière qui t'a emmené là, c'est sûr et certain qu'il y a des questions qui se posent. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans une saison. Il y a tellement d'impondérables dans le monde du football. La situation des blessures, c'est pire que dans la Ligue nationale de hockey. Donc, si jamais on perd un David Alexander, ben, il va falloir avoir une bonne solution de rechange chez les Alouettes. Mais ça, c'est le travail de Danny Maciocia. Sauf qu'aujourd'hui, on vient de faire un statement, comme on dit dans le jargon. On vient de dire, c'est lui notre homme, c'est David Alexander. Merci, Cody, pour tout ce que tu nous as apporté, dont une Coupe Grey. Mais maintenant, je pense que c'est le temps de regarder vers l'avenir chez les Alouettes.
Parfait. Tu voulais terminer la chronique, Olivier, en nous parlant de hockey. Donc, peut-être des nouvelles plus réjouissantes. En tout cas, un coup d'œil différent que celui qu'on a fait sur le Canadien et les Sénateurs.
Oui, absolument. Parce que pour les amateurs de hockey junior, on a vu un peu la compétition, la nouvelle compétition qui se passe en milieu de saison, qui met en lumière les espoirs du hockey junior en Amérique du Nord. Et cette année, on a changé la formule. Au lieu de faire, du côté de la Ligue canadienne, du moins, au lieu de faire deux équipes qui s'affrontent, on a décidé de faire une équipe de la Ligue canadienne de hockey qui affronte une équipe des États-Unis. Ça a donné lieu à vraiment un bel événement. Deux matchs en deux soirs. L'équipe canadienne l'a remporté à deux reprises. Mais ce que j'ai aimé le plus là-dedans, c'est vraiment qu'on a senti une certaine rivalité, Sébastien, parce que dans un match de la Ligue canadienne dont deux équipes sont formées avec les meilleurs joueurs du pays, c'est intéressant, là, mais ça donne pas la même rivalité que de jouer un match contre les États-Unis. Moi, j'ai vraiment aimé la formule, j'ai aimé que la Ligue canadienne a décidé de revamper ça cette année, puis qu'on ait décidé de lancer une nouvelle façon de faire, mais ce que j'aime moins de ce côté-là, ça donne moins d'espace à nos joueurs canadiens de se mettre en valeur, de se mettre en lumière, parce que là, c'est juste une formation, c'est pas deux formations qui s'affrontent puis qui, si tu veux, donnent plus de visibilité à plusieurs joueurs. Là, c'est vraiment certains joueurs qui ont deux soirs pour se mettre en lumière en vue du repêchage de la Ligue nationale, puis également en vue du championnat mondial junior qui s'en vient à grands pas à Ottawa. Mais ça reste que je trouve ça très intéressant d'essayer de rentrer un petit esprit de compétition, si tu veux, là-dedans, parce que tant qu'à faire un événement comme ça, faut qu'il y ait un enjeu au bout. Et là, cette année, c'est ce que j'ai vraiment aimé, c'est de voir l'équipe canadienne, l'équipe de la Ligue canadienne de hockey, vraiment le compétitionner contre les États-Unis. Ça fait aussi également une bonne petite tape dans le dos au programme canadien, parce que souvent, on vante ce qui se passe de l'autre côté de la frontière au niveau du développement du hockey. On dit que la NCAA, c'est 100 fois mieux que le hockey junior canadien, puis pourtant, le hockey junior canadien a dominé dans le premier match des États-Unis. Et hier, c'est une belle victoire dans un match serré. Honnêtement, belle formule. Chapeau à la Ligue canadienne de hockey d'avoir pensé à faire ça et de se revamper un petit peu. Maintenant, c'est aux espoirs de prouver qu'ils ont leur place sur l'équipe canadienne. Puis c'est aux espoirs également d'essayer de pousser jusqu'au repêchage de la Ligue nationale de hockey pour être sélectionné dans les meilleurs rangs possibles. C'est une belle vitrine. Puis encore une fois, c'est vraiment pour moi une réussite.
Bon, ben merveilleux. On termine ça sur une note positive. On aime ça. Puis là, je t'invite à aller soigner ta fin de rhume, Olivier, pour nous revenir en pleine forme la semaine prochaine.
Je vais essayer de ne pas vous parler avec une voix de chambre à coucher la semaine prochaine.
Excellent. Merci. Salut.
Merci. Bye-bye.